Mana Issi, un styliste entre Grace Jones et les masques Bamileke.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Un mannequin qui devient designer, voilà une rareté. Un mannequin africain qui devient un designer international, ah ça c'est une occasion en sol majeur à ne pas rater. En même temps, cette histoire est née au Cameroun, dans la famille Aïssi. Et dans la famille Aïssi, si je demande le père, tiens voilà un champion de boxe, la mère, tiens voilà une Miss Cameroun 1960, les frères et les sœurs, tiens voilà un chorégraphe, une chanteuse, un boxeur, un danseur. C'est une famille qui de génération en génération monte sur le ring ou sur le podium. Et aujourd'hui dans la catégorie poids lourd de la famille, j'accueille Imane Aïssi à la personnalité aussi discrète que plurielle. Danseur, acteur, mannequin pour Pierre Cardin ou Christian Dior. À son tour, il est devenu styliste. Un styliste forcément inspiré par les clics et les tweets de l'époque, mais aussi par les civilisations de l'Afrique ancienne. Imane Aïssi, bien le bonjour.
Bonjour Yasmina.
Yasmine. Oui, c'est avec un petit E, vous voyez, je fais ma coquette moi aussi. justement, on va mettre un peu une caméra avec des mots. Parce que je vous ai devant moi, vous êtes magnifique, mais j'aimerais bien savoir comment vous êtes sapé aujourd'hui.
Alors, je m'habille toujours tout en noir. Parfois, les gens me demandent pourquoi tout en noir. Parce qu'ils trouvent que le noir, c'est élégant, ça ne se démode pas. Aussi pour témoigner mon amour avec tous les gens que j'aimais qui ne sont plus de ce monde.
Donc, c'est une couleur de deuil alors pour vous?
C'est entre deux. C'est une couleur facile, très moderne, ouais, qui ne se démode pas. Et quelque part aussi une couleur de deuil.
Alors il y a une casquette sur la tête?
Une casquette sur la tête.
Mais pas n'importe laquelle.
Non, c'est banal. Ce n'est pas vraiment une marque importante. Plutôt la veste, oui, c'est du Rick Owens. Et j'ai un pantalon Saint-Laurent et les petits baskets neutres aussi. Pas de marque aux chaussures.
D'accord, ça nous fait combien tout ça à l'arrivée?
Il n'y a pas de prix à ça. Les prix, ça ne s'annonce pas.
Alors vous êtes beau naturellement, évidemment, et vous savez de qui vous tenez ça. Mais on le sait, c'est du boulot quand même, hein, être beau. Est-ce que vous acceptez vraiment de souffrir pour être beau?
Je crois qu'il y a un prix à tout. Merci maman, merci papa, merci à mes grands-parents. Je crois que c'est dans le sang. Et après, ça s'entretient aussi la beauté. Moi, je me méfie de la beauté classique. La beauté intérieure, c'est important aussi.
Oui, on connaît le refrain, mais enfin quand même, ça,
oui,
c'est pas suffisant.
Certains vont nous dire que c'est trop facile de dire ça, mais bon.
Jusqu'où vous êtes prêt à souffrir pour être beau? C'est ça ma vraie question.
Je suis, comment on dit, je peux être maso, hein, je ne sais pas.
C'est-à-dire?
Je suis très curieux, je suis très audacieux aussi, donc je n'ai pas de limite.
C'est-à-dire, alors maso? Exemple.
Un exemple fixe, j'en ai pas, mais bon, j'imagine des choses. C'est un peu fou, mais bon.
Vous nous intriguez.
Un peu, tout petit peu.
Je déclare l'ouverture des premiers Jeux africains à Brazzaville.
S comme séquence sépia.
Oui, notre séquence sépia pour en sol majeur s'ouvre sur la Miss Cameroun 1960.
De l'indépendance.
Dont j'ai la photo sous les yeux. Est-ce que vous arrivez à nous décrire cette Miss sublime?
Alors cette dame qui est devenue grande dame, à l'époque c'était une jeune fille et qui était orpheline de mère, et comme par hasard le conte de fées tombe sur elle et devient Miss de l'indépendance. D'abord Miss Yaoundé, Miss du pays là où elle vivait, donc Mofou, Miss Yaoundé, ensuite Miss Cameroun de l'indépendance.
On n'a pas la photo encore là sous les yeux. Elle ressemble à quoi cette photo de Miss Cameroun 1960? C'est un document ça.
Alors quand on la voit, on se dit quand même waouh, parce qu'il y a la jambe, longiligne. Elle a de la gueule.
Elle a une petite robe en strass, très très courte.
Oh, ouais, c'est très court. Je crois que c'est, il y a une pièce de maillot de bain en une pièce avec ce qu'on appelle l'écharpe et le diadème sur la tête, et talon aiguille. C'est très élégant, même la manière qu'elle pose. Elle a un bracelet aussi très fashion en diamant.
Donc c'est elle, c'est-à-dire votre mère, Julienne Honorine Eyanga, qui va donc lancer les canons de la beauté dans ce Cameroun nouvellement indépendant. Vous disiez c'était audacieux, parce qu'effectivement, elle a ses jambes nues, longilignes.
À l'époque, on peut imaginer que ce n'était pas évident de faire de tels concours à l'époque avec des colons, les premiers dirigeants du pays pour le lancement vers le monde moderne. Donc des jeunes filles qui ont l'audace et le courage de se présenter et de montrer qu'elles peuvent marcher devant les gens tout nus, peuvent parler, peuvent dire certaines choses, ce n'était pas évident.
Alors cette Miss Cameroun va épouser un certain Jean-Baptiste Aïssine Sama, premier Camerounais médaillé d'or de boxe aux premiers Jeux africains en 1965, dont on entendait une archive à l'instant. Alors ça veut dire quoi? À la maison, ça défilait, ça dansait, ça boxait?
Alors c'était une maison, à la maison il y avait beaucoup de monde tout le temps, les souvenirs que j'ai. Il y avait les réunions de femmes, les sœurs et cousines de ma maman, qui étaient des très belles femmes aussi, les dimanches ça dansait. Et du côté de mon papa, il avait des gens très musclés, très sportifs, tout ça. Donc à la maison, la tradition, c'était la danse et la boxe.
Et vous avez choisi votre camp entre les gars très musclés et les froufrous?
J'ai fait la boxe au départ. Ah. C'était un peu obligatoire. Même les filles et les garçons, tout le monde s'entraînait.
Oui, parce que je vois que dans la fratrie, vous y êtes tous passés. Tous les enfants ont été contaminés, soit par la danse, soit par la boxe. Donc, c'était obligatoire, alors.
C'était un peu obligatoire, c'était la tradition de la famille. Nous, on allait s'entraîner au camp de l'unité, une des centres que mon père avait mis en place à Yaoundé. Il a été entraîneur des boxeurs très importants du pays, comme Joseph Bassala. Et c'est un monsieur qui était assez gentil, mais on avait très peur de lui. On l'appelait Aïssi Bikouda, donc Aïssi les coups de poing. Tout le Cameroun l'appelait comme ça.
Vous avez été élevé avec les coups de poing aussi?
Pas vraiment, mais quand il arrivait à la maison, on se cachait. Donc on n'était pas très...
Wow.
On avait tout le temps peur de lui.
Ouais. Mais vous, Imane Aïssi, vous avez choisi votre camp, si j'ose dire, puisque votre mère a été un peu votre première poupée.
Elle est impressionnante. Elle m'a émerveillé. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a dirigé vers les contes des fées.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que comme c'était une très belle silhouette, une très belle femme, elle savait se mettre en valeur. Elle mettait de très belles choses aussi, même les choses les plus simples. Quand elle les mettait, ça devenait du waouh. Donc ça m'a ébloui, je l'avoue.
Et ça vous a donné l'envie de dessiner déjà très tôt des silhouettes féminines?
Et par là, je commence à dessiner, oui, à prendre des petits bâtonnets, faire des dessins au sol. Et en plus, à chaque fois qu'elle s'habillait aussi, je tiens à le dire, elle m'appelait toujours d'aller monter sa fermeture dos. Et elle avait des très belles robes, beaucoup de robes décolletées au dos. Donc j'allais toujours monter ses fermetures, aider à mettre ses talons aiguilles, parce qu'elle mettait toujours les talons très hauts et les bouts pointus, et les souvenirs que j'ai, et c'est des choses qui m'ont beaucoup frappé.
Et vous chaussiez ses talons aiguilles quand elle n'était pas à la maison?
J'avoue que j'ai essayé certaines choses.
Vous êtes née en 68 à Yaoundé, Imane, et puis après avoir fait vos premiers pas de danseur dans le groupe familial, parce que ça aussi c'était obligatoire apparemment, je ne sais pas.
Exactement.
Vous intégrez le Ballet National du Cameroun, et puis dans les années 80-90, vous travaillez avec des grands artistes, il Mé Congo Président, Marie-Josée Gibbon de Kassav, Baba Mal, un des frères de Touré Kounda.
Marthe Zambo, Anne-Marie Ndiaye.
Oui, la liste n'est pas exhaustive.
C'est longue.
Vous arrivez en France en avril 91, et alors pas n'importe comment, vous arrivez dans le sillage d'un certain Yannick Noah, pour lequel vous êtes danseur dans sa fameuse tournée Saga Africa.
Ah oui.
Attention les secousses.
Ah oui.
C'était là... sympa ça?
Ah, c'était une aventure incroyable. On arrive, il y avait tous les plateaux télé, la tournée en elle-même. C'était impressionnant.
Alors vous irez jusqu'à tenir des rôles dans des clips de Mylène Farmer, de Sting. Vous irez jusqu'à danser dans le ballet d'un Patrick Dupont. Danseur étoile, vous auriez en fait pu faire juste, si j'ose dire, une carrière de danseur, Imane Aïssi?
Oui, la danse m'a toujours attiré, pas seulement parce que j'ai été spécialisé sur les danses traditionnelles d'Afrique, donc les danses du Cameroun. Après, je me suis ouvert un peu plus vers les danses d'Afrique de l'Ouest, hein, donc tout ce qui est sabar, les danses du Mali, les danses Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec le chorégraphe Georges Mamboy. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand on est ouvert à d'autres danses, ça nous amène à s'exprimer aussi autrement envers le monde.
Une petite question, est-ce que toutes ces casquettes, puisque vous n'allez pas vous en tenir à la danse, vous allez être mannequin, puis vous êtes styliste aujourd'hui, mais est-ce que toutes ces casquettes comme ça sur le corps un peu sublimé, est-ce que ça a été bien accueilli dans le quartier et dans ce pays qu'est le Cameroun, qu'un pays quand même où on n'aime pas beaucoup que les garçons jouent à la poupée, si vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, il y a toujours un peu ambigu au départ, mais après je crois que le monde évolue et les gens...
Mais à votre époque?
À mon époque c'était un peu différent. Je ne regardais pas tout ça, j'étais curieux, j'étais audacieux, je m'en foutais de ce que les gens disent. Ce qui était important pour moi, c'était d'arriver à danser à Paris. Je savais que c'est à Paris qu'il devait devenir mannequin. S'il devait faire du mannequinat à l'échelle internationale, c'était Paris ou rien. Donc j'ai essayé, c'était pas facile à l'époque, j'avais pas de bourse, j'avais rien, donc j'ai commencé à faire des heures de ménage à gauche à droite, j'ai mis un peu d'argent de côté, et c'est comme ça que j'ai commencé à payer mes premiers bourses.
Beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition chez vous, on y reviendra sans doute Imana ici, mais l'élégance ayant toujours été votre cap, comme ça, jusque dans vos choix de musique, on va se rapprocher d'un certain Prince Nico Mbarga Christiana, qu'on pourrait regarder d'ailleurs défiler pendant une minute en sol majeur, parce que c'est pas rien un garçon, il s'habille pas n'importe comment. Mm-hmm. Moitié Camerounais, moitié Nigérian, il était un peu sapé de chez sapeur, non?
Je crois qu'il était avant-gardiste de son époque, et comme par hasard, c'était un cousin à ma maman, et les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'était un big star en Afrique. Et quand il arrive au Cameroun, il vient en voiture pour donner un concert, et donc il vient en voiture avec tous ses musiciens, des cars, c'était tout un cortège, il atterrit chez ma maman.
Ah ouais.
Et c'est tout Yaoundé qui vient, les gens venaient même de d'autres villes pour venir le voir. Donc tous les midis, il venait manger avec ses musiciens, la maman faisait à bouffer avec ses cousines, tout ça. Il y avait un monde fou. C'était un truc incroyable.
Alors, une petite Madeleine pour vous.
Merci.
Chose en vous regardant dans le miroir, Imane ici, est-ce que votre amour des chaussures, vous êtes un cinglé des chaussures, hein, est-ce qu'il viendrait par hasard de ce Prince Nico Mbarga? Parce que j'ai regardé sur ses pochettes, j'ai scruté ses bottes années 70, bottes compensées style disco.
C'était assez hallucinant. Chaussures. Je ne sais pas si mon amour des chaussures vient de là. Je sais que ma maman avait de très belles chaussures aussi. Les premiers Xavier Dano que j'ai vus,
ouais,
marque de chaussures importantes en Europe, ou de Charles Jourdan au Saint-Laurent, c'était sur les pieds de ma maman.
Ouais.
C'était magnifique. Donc, Prince Nico Mbarga avec ses bottes, sûre et certaine que ça m'a...
Vous savez que c'est la première fois que je viens à la radio en faisant attention à ce que je mets comme chaussures. Bon, j'ai pas fait d'effet de style, hein, parce que comme la météo est pas terrible, mais voyez, les chaussures disant quelque chose, voilà ce que j'ai mis ce matin, dites-nous.
C'est pas mal, c'est fun. C'est fun, c'est les Converse.
Hein, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est très fashion.
C'est très fashion.
Et aussi très fonctionnel, confortable.
Vous
c'est
avez
important.
Résumé la situation. Faites voir vos chaussures avant.
Alors, moi j'ai les petites baskets noires aussi, c'est très fonctionnel, confortable pour la ville.
Ouais.
Mais parfois j'ai...
Très discret. Hein.
Parfois j'ai deux paires de chaussures, j'ai fait comme les nanas. Parfois.
C'est-à-dire
les nanas, souvent elles ont une paire de ballerines, une très belle paire d'escarpins.
Et vous aussi, vous avez vos escarpins dans le sac?
Non, j'ai plutôt parfois les très belles paires de chaussures pour hommes.
Ouais.
Ça peut être des Lanvins, Saint-Laurent ou autre, au cas où.
Mais on ne prend pas le métro avec. Je vous remercie en tout cas d'avoir quitté votre atelier des grands boulevards parisiens, parce que je sais qu'en ce moment vous êtes en pleine création pour la semaine de la couture qui va démarrer le 30 juin à Mona Bismarck American Center, c'est à Paris dans le 16e. Vous avez trouvé un nom pour cette collection ou pas finalement?
Finalement j'ai trouvé un nom pour vous faire plaisir.
C'est gentil.
Yasmine.
Dites-nous.
Alors c'est Mbaki Dourou. C'est en langue bétie du Cameroun et ça veut dire celle qui porte l'habit important. On pourrait dire la robe importante, le vêtement important, soutane. Donc quelque chose qui est un vêtement qui est impressionnant.
Alors à partir, je sais que vous démarrez toujours à partir d'une idée, d'un récit peut-être, d'une lecture, d'un voyage, peut-être même d'une actualité. Vous avez démarré à partir de quoi pour cette collection?
Alors j'ai démarré à partir de l'élégance africaine à l'ancienne, plus précisément du boubou, qu'on appelle chez les bétis bouba. Puis je le revois à ma manière,
de façon
moderne. Je donne quelques indices comme ça, mais je ne veux pas tout dévoiler.
Oh sinon, vous dévoilez rien du tout, Imane.
Non, c'est les petits détails. C'est plutôt amusant de raconter des petites histoires, rappeler aux gens que l'élégance africaine, ce n'est pas que quand Obama et Michelle Obama arrivent à la Maison Blanche aux États-Unis. L'élégance africaine, l'élégance noire a toujours existé.
Mm-hmm. Est-ce que vous imagineriez un boubou particulier pour Barack Obama?
Pourquoi pas, puisque Mandela en a mis des petites chemises de Patéo.
Oui.
Donc
oui.
C'est plutôt une très belle vitrine pour l'Afrique.
C'est une proposition en tout cas, bon entendeur.
Et oui, en plus Patéo nous a fait l'honneur, elle était chez Dior je pense.
Alors je suis allée voir sur votre site, et j'invite les auditeurs à le faire, c'est assez facile, votre précédente collection printemps-été 2019, qui avait pour nom Caraloga, que vous allez traduire comment?
Caraloga, c'est une manière de revisiter le catalogue en langue bétie du Cameroun. J'ai fait toujours la promotion de ma langue traditionnelle parce que c'est des langues qui sont en voie de disparition, dont j'adore le parler. Mais Dinkwabiwonde, ça veut dire j'adore parler la langue Ewondo.
Wow.
Caraloga, ça veut dire catalogue. Donc on revisite la beauté, l'élégance à l'ancienne, de certains vêtements. On se dit aussi que quand on parle de vêtements, la mode africaine, c'est soit du bling-bling mal fait, c'est soit de la robe coupée clouée, c'est soit un peu ces façon-façon.
Ces façon-façon que vous voulez élever jusqu'à la couture de luxe.
J'essaie toujours de faire mieux faire les choses pour dire que l'Afrique mérite mieux que ça.
Vous, je sais qu'avec vous, on est loin du boubou premier degré ou de la mode artisanale façon-façon, comme vous dites justement. C'est une élégance chez vous qui est passée visiblement par l'école d'Yves Saint-Laurent et que vous métissez avec notamment des tissus africains. Et ce qui m'intéresse, c'est quand vous parlez des tissus africains en voie de disparition. Vous pensez à quoi, par exemple?
Aujourd'hui, quand on parle de la mode africaine, les tissus africains, qu'est-ce qu'on va nous montrer? C'est les fameux tissus des imprimés qui ont été importés à l'époque de Colomb, qui n'ont jamais été africains. Mais en même temps, ça fait partie de l'histoire de l'Afrique. Mais c'est mieux toujours de dire les choses telles qu'elles sont. C'est des imprimés qui ont été parfois fabriqués en Indonésie. Aujourd'hui, certains sont fabriqués en Chine, les fameux wax. Mmh. Alors que on ne refuse pas. Le monde évolue. Les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, mais ne tuons pas notre patrimoine. On doit acheter africain aussi. Ce n'est que par là que l'économie africaine va évoluer et que l'histoire africaine aussi va prendre sa place et réécrire l'histoire de l'Afrique par les tissus, par l'âme de l'art, l'âme du pays, l'histoire et tout. Donc, tout ce qui est des tissus Kente du Ghana, d'une dope de chez les Bamileke au Cameroun, il y a des tissus maliens, il y en a tellement que le monde ignore, les vrais tissus africains.
Un tissu qu'on appelle au Cameroun « Mon mari est capable ».
Oui, et ça c'était mon enfance aussi, c'était les voiles de coton qui étaient teintées à la main artisanalement par des groupes de femmes. Et comme c'était compliqué à faire, et ça coûtait cher aussi les teintures, tout ça, donc quand on voyait une femme avec sur le dos, donc ça signifiait que le mari était capable, le mari avait le moyen de l'offrir à sa femme.
Et comment on dit ça en béti ou en ewondo? Alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit détour en sol majeur de façon un peu exceptionnelle du côté d'Abidjan.
Oui.
Où l'un de nos auditeurs fidèles, Siaka Diallo, nous écoute régulièrement. Il a 30 ans, il est étudiant en histoire et il a une question à nous poser. Bonjour Siaka.
Bonjour Yasmine.
Et Aquaba, en sol majeur. Alors, je sais que vous avez jeté un œil sur le travail de notre invité, Imana Yissi, et que vous avez été particulièrement sensible à une de ses collections intitulée Heroes Collection. Tout en nous disant pourquoi vous avez été sensible à ça, je sais que vous avez une vraie question à poser à notre styliste. On vous écoute.
Merci Yasmine. Alors, oui, la collection Heroes particulièrement a attiré mon attention parce qu'elle retrace l'histoire des femmes de Namibie. Et donc, je me suis dit, voilà, on retrace une histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et c'est retracé à travers la mode. Et Ayman le fait ressortir très bien. Quand j'ai vu les vêtements avec les grands carreaux, avec les couleurs, tout ça, bon, déjà, j'ai été attiré parce que j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Alors, j'aimerais vous poser la question qui est de savoir si vous croyez qu'il est possible de redonner une autre image de l'Afrique à travers la mode, comme vous le faites si bien.
Bonne question, Initché. Merci, Siaka. Réponse, Imana Yissi.
Bien sûr que si. Les images sont révolutionnaires aussi. Réaffirmer, reprendre la confiance, rééduquer les gens. Bien sûr que la mode est un acteur.
En précisant donc que vous vous êtes inspiré du génocide des Héros.
Exactement, une histoire sanglante.
La Namibie du XXe siècle.
Exactement, par les Allemands.
Voilà. Uh-huh. Et vous dites, grande histoire et mode, ça peut fonctionner ensemble.
Bien sûr, cette histoire est sanglante. En même temps, c'est aussi rayonnante parce qu'ils ont survécu avec le style vestimentaire de leur bourreau.
C'est-à-dire
les Allemands. Donc, ils ont repris la manière que les Allemands s'habillaient à l'époque, dont les robes victoriennes, avec des manches en gigot, la taille un peu style empire et tout. Donc, selon le niveau de la vie de la société, les femmes se procuraient des tissus, qu'elles faisaient des patchworks et se faisaient des robes avec. Dans le style empire de cette époque-là, on s'est dit « Waouh, c'est quand même incroyable, il fallait le faire ». Elles sont fières de porter ça, donc elles ont survécu.
Et qu'est-ce que ça donne alors sur votre podium à vous, dans notre 21e siècle? Donnez-nous un modèle que vous avez conçu.
Alors moi, j'ai revu ça de façon très moderne. Au lieu de faire une robe style empire, tout ça, j'ai fait utiliser la soie. Que j'ai retravaillé en patchwork avec des carreaux, dont j'ai fait bustier, style un peu époque des reines de France aussi. Je crois que c'est pas si mauvais, c'est plaisant et flatteur.
À la question qui incarne la femme idéale à vos yeux, Imana Yissi, vous allez nous dire tout ça, mais je crois comprendre que rien n'est tout blanc ni tout noir, même votre réponse qui ressemble un peu à ces deux voix.
Didn't you just love the picture? I did, but I just felt so sorry for the creature at the end.
Sorry for the creature? Why'd you want him to marry the girl?
He was kind of scary looking, but he wasn't really all bad. I think he just craved a little affection, you know, a sense of being loved and needed and wanted.
That's a very interesting point of view.
Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?
Un tandem en sol majeur sur RFI qu'on n'a même pas besoin de présenter, c'est ça qui est pratique. Imana Yissi, le styliste que vous êtes, vote plus pour la femme enfant façon Marilyn ou plus pour la femme androgyne façon Grace Jones?
Je crois que les deux vont très bien ensemble. Je me dis souvent, si j'aurais été une femme dans une autre vie, je serais bien Marilyn Monroe, ou alors Grace Jones, ou alors Whitney Houston. Les femmes fortes, femmes enfants, femmes très délicates, femmes qui reculent devant rien, la femme qui évolue, la femme qui a compris comment fonctionne le monde.
Dans cette vie terrestre, vous avez plus un côté Grace Jones au masculin. Hein. J'ai regardé quelques photos de vous, mannequin. Non mais c'est vrai, vous avez un peu la même coupe, une espèce de géométrie comme ça dans le visage. Mm-hmm. C'est un idéal pour vous, Grace Jones.
Grace Jones, j'aime le côté un peu garçon manqué, la femme qui ose, la femme il fallait le faire de son époque aussi. Par exemple, les souvenirs de l'enfant aussi. Je sais que quand elle passait à la télé ou ses vidéos, tout ça, au Cameroun, on l'appelait, on court Satan, la maigre satanique. encore Satan. Donc,
mais vous n'avez pas de barrière hein, en vous, parce que bon, que vous soyez, que vous ayez fantasmé sur une Grace Jones, ça paraît assez évident, si j'ose dire, mais que vous vous soyez identifié à Marilyn Monroe, blonde, blanche, platine, comme ça, ça c'était possible pour vous?
C'est possible, je crois que moi, une personne, je ne vois pas de couleur, je vois d'abord la personne. Donc, je me vois en Marilyn, pourquoi pas, Marilyn noire, pourquoi pas, ou Marilyn jaune ou vert même, si on peut.
Vous qui vous promenez de par le monde, hein, vous êtes allé au Sénégal, au Ghana, au Kenya, en Suisse, au Japon, etc. La définition de la femme idéale en tant que styliste, c'est quoi, si on fait un petit tour du monde et donc au-delà des couleurs?
À Paris, quand on est à Paris, les femmes à Paris ne s'habillent pas comme à Yaoundé. Et les femmes à Yaoundé ne s'habillent pas comme au Kenya. Au Kenya, elles sont très, et un petit côté masculin. La plupart ont les cheveux très courts, cheveux crépus, la jupe droite, petite veste. Quand on les voit dans la rue, c'est celles qui vont travailler. Par exemple,
au Sénégal,
j'adore le Sénégal. La femme à Dakar, c'est très mimique, c'est très beaucoup de manières. Ça parle avec beaucoup de comédie. Elles sont très féminines.
Comédie en Wolof.
Oui, en plus, elles adorent parler. C'est surtout c'est ça que j'adore, parce qu'elles sont fières de parler Wolof. Mm-hmm. C'est ça l'Afrique aussi.
Le Ghana?
Le Ghana, c'est il y a le côté britannique. À part que ça évolue avec le mouvement R&B, toutes ces chanteuses et comme Beyoncé et autres qui ramènent le côté vraiment le chichi de la jeune femme qui évolue, tout ça. Mais à la base, je crois que c'est aussi assez strict.
Et au Japon?
Au Japon, il y a le côté vraiment poupée qui évolue et qui est prêt à tout. Et que j'ai vu la sortie des bureaux, tout ça, c'est très changeant. Parce qu'on aurait dit qu'ils n'ont pas de limites.
Question avec Joker, Imane Aïssi, est-ce qu'une Chantal Biya, première dame du Cameroun, incarne la femme idéale pour vous à habiller?
C'est une belle femme, c'est une belle femme.
Pourriez-vous lui conseiller quelque chose là, pour sa coiffure?
Pour être vrai avec moi-même, c'est une personne que je respecte, que j'ai connue à l'époque.
Forcément,
mais
vous lui avez appris à marcher quand même hein?
Ouais, ça remonte, c'est à l'époque quand on était tout jeune.
Ouais.
Donc j'ai gardé de très bons souvenirs pour ça. Moi je dirais sincèrement, j'allégerais la coiffure. Parce que c'est une très belle femme.
Parce qu'on est d'accord, elle a des perruques léonines, extravagantes, incroyables.
Je la mettrai des petits chapeaux sobres, je balaie les cheveux, je la fais un petit brushing un peu, je pourrais dire à la Marilyn Monroe, tout léger, parce qu'elle a un port de tête assez important.
Madame Biya, c'est quand vous voulez pour être coachée par Imane Aïssi. Vous feriez quoi pour Brigitte Macron?
Alors, pour notre première dame française, Brigitte, je trouve que c'est trop court.
Les jupes sont trop courtes.
C'est trop court. On peut oser, mais pourquoi pas, je trouve que pour une première dame, c'est un peu trop court.
Donc ça n'a rien à voir avec la silhouette et la morphologie, elle est très mince.
Elle est mince, les genoux aussi, je crois que c'est pas très très joli quand on voit. Elle aurait pu le montrer s'il y avait un peu plus de chair, je pourrais dire ça comme ça, mais bon.
À bon entendeur, Brigitte.
À mon avis, hein, ce n'est que mon avis.
Bah, c'est un avis qui compte, puisque vous habillez aujourd'hui des filles de président sur le continent. On peut savoir lesquelles?
Oh, je pourrais donner les noms, mais non, je ne donne pas les noms. Ça reste pour moi.
C'est plus cher avec les noms. En tout cas, vous avez habillé des personnalités du continent, des ministres, des personnalités du corps de l'armée, des journalistes,
aussi,
comme Denise Époté. De
Laura Flessel, qui l'a habillé, par exemple.
Des artistes, bien sûr.
Mm-hmm.
Et par exemple,
Angela Bassé.
En 2016, on a vu par exemple une certaine Marie-Josée Pérec monter les marches du Festival de Cannes dans une robe Imane Aïssi et c'était waouh!
Oui, ça m'avait beaucoup plu parce que Marie-Josée, déjà, c'est un personnage.
Grande athlète.
Par sa stature. Hein, ouais. C'est une femme très grande, bien, comme elle a fait beaucoup de sport, tout ça. Un petit côté, un peu petite fille.
Qu'est-ce que vous avez imaginé pour elle?
J'ai imaginé plein de choses. Un pantalon avec un bustier, avec des froufrous. On a essayé plein de choses. Finalement, on était tombé sur cette silhouette noire avec un faux cul et la traîne. Qu'il allait très bien parce qu'elle a des très belles jambes.
Elle.
Elle, pardon.
Est-ce que vous diriez que vous êtes un styliste communautariste, Imane Aïssi?
Ça serait me réduire ou démenterrer. Je crois que je suis fait pour embrasser le monde, si je peux dire ça comme ça. Je suis culotté.
Oui.
Hein.
Embrasser.
Embrasser le monde.
Oui.
Je suis fait pour tout le monde.
Vous vous méfiez de ce mot?
Oui, je me méfie. Parce que si on se renferme soi-même, on se met dans les cases. Hein, les autres ne vont pas venir vers nous. C'est à nous aussi de comprendre le fonctionnement du monde et puis de faire l'effort d'aller vers le monde.
En 2006, vous avez participé au gala Mode Afrique, qui était un gala humanitaire qui se déroulait au Rwanda. Mm-hmm. Et vous y représentiez la France. Je me demandais comment vous aviez vécu tout ça, le fait que vous, Camerounais d'origine, vous représentiez la France en Afrique.
ça arrivait parfois que je représente la France. C'est toujours une fierté. Parfois, les choses se font naturellement. Moi, à mon époque, mon papa a travaillé dans les années 50 et il a boxé pour la France. Donc, quand ça arrive, que ça se réalise, je crois qu'on ne se pose pas de questions. C'est comme quand il représente le Cameroun, aussi je suis fier. Si ça arrive demain qu'il doit représenter, c'est pas le Sénégal ou la Suisse par n'importe quel biais, pourquoi pas.
Le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant.
P.
Ayant assisté à la liquidation de ces systèmes de référence, à l'écroulement de ce schéma culturel, il ne reste plus à l'autochtone qu'à reconnaître avec l'occupant que Dieu n'est pas de son côté.
Pécom, peau noire, masque blanc.
Est-ce que vous avez eu le temps de lire notre cher Frantz Fanon, Imanaïssi ?
Ah non, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire.
Vous allez le prendre ?
C'est pas... je sais pas.
Pas plus que ça.
Pas plus que ça. Il faut être vrai avec soi-même.
Oui, bien sûr. Ouais. Ça vous parle pas trop ?
On a tellement de choses à faire, donc parfois on peut pas être partout. Il y a des choses parfois qui nous échappent.
C'est très honnête de le dire comme ça. En tout cas, l'ouvrage « Peau noire et masque blanc », il s'ouvre sur cette citation. Je vous mets ça dans la poche, Imane. Mm-hmm. C'est une citation d'Aimé Césaire qui disait « Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. » Est-ce que vous faites partie de ces hommes qui ont intégré tous ces mots-là ?
C'est tellement bien dit par ce grand monsieur. Et je pense que si n'est pas intégré de ces paroles importantes.
Ça, non, mais là, je parle de votre vécu. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'en arrivant en France en 92, une fois que les projecteurs se sont éteints après l'aventure de Saga Africa auprès de Yannick Noah, vous avez été obligé de faire des petits boulots,
franchement, bien sûr.
La question, c'est la galère que vous avez apparemment traversée. Est-ce que c'était celle de n'importe quel étranger ou est-ce que c'était celle de n'importe quel noir qui démarre ici en France?
Je crois que chacun a son propre histoire, les histoires sont différentes.
En tout cas, vous n'avez pas, pour dire les choses simplement, vécu du racisme en France.
Bien sûr que ça existe. Je ne pourrais pas dire que tout est rose. J'ai vécu des choses. Et les cons, il y en a partout. Au Cameroun aussi, il y en a qui n'aiment pas les blancs. Il y en a qui n'aiment pas ceci, cela. Je crois que les cons, il y en a partout. Donc, il faut de tout pour en faire au monde.
Et est-ce que dans la mode, vous diriez que la couleur est un atout aujourd'hui, hein, par rapport aux années 80 où vous avez démarré en tant que mannequin chez Cardin, Dior, Yves Saint Laurent ?
La couleur, non, je ne pense pas que la couleur est un atout, c'est plutôt la personnalité des gueules, la niaque de faire des choses, la compréhension du métier, le respect de soi-même envers les autres. C'est difficile pour tout le monde, à partir du moment qu'on a compris comment les choses fonctionnent et qu'on a le potentiel, qu'on peut faire ces métiers. Pourquoi pas se lancer ? Moi, j'ai été audacieux de me lancer dans la mode en tant que mannequin. Ça n'a pas été facile pour moi, les départs, tout ça, mais bon, il faut faire avec.
Mais vous avez parié sur votre personnalité. C'est ce qui a fait oublier peut-être ce qui pouvait déranger, c'est-à-dire la couleur.
Et moi, je m'étais dit, plus noir que moi, il y en avait. Plus noir que le couvron, il y en avait, donc...
Vous pensez que si vous réglez vous-même ce problème, cette question, que vous dépassez éventuellement le complexe qui peut en découler, ça peut faire avancer les choses. Quand vous dites, il faut savoir comment ça fonctionne, c'est ça que vous voulez dire ?
Je crois que l'acceptation de soi-même, l'acceptation de ce que nous sommes, c'est important. Si on ne s'acceptait pas, ce n'est pas les autres qui vont faire le cinéma à notre place. Hein. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Donc moi, je m'acceptais déjà comme j'étais. Je ne me suis pas décapé la peau, j'avais des cheveux crépus à l'époque et puis la mode m'a accepté à l'état pur comme j'étais.
Et alors justement, qu'est-ce que vous pensez de cette grande mode, c'est le cas de le dire, de la dépigmentation qui ravage le continent ?
Je pense que c'est très difficile à dire parce qu'il y a différentes raisons. Qu'est-ce que l'Église nous a appris à l'ancienne époque ? ça joue beaucoup aussi. Même jusqu'à nos jours, c'est encore affiché dans les églises. Hein. Tout ce qui est noir est mauvais, tout ce qui est blanc, c'est le paradis, c'est bien. Donc, la couleur qui ouvre les portes dans la société aujourd'hui, c'est il faut être clair de peau. Pour les femmes, même les hommes aussi, hein, pour trouver un compagnon, il faut être clair de peau. Donc, nous, les Français, on fait comment ? Donc, ce qui fait que beaucoup de femmes vont avoir, ou des hommes vont avoir recours à ça.
Mais vous, aller se décaper. De votre fenêtre de styliste, est-ce que vous luttez contre ça ? Parce que vous avez un discours sur l'authenticité, sur...
Moi, je n'encourage pas ça. Après, les gens sont libres, le monde a évolué. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent vers leur corps, mais moi je n'encourage pas. Déjà, quand je fais les castings pour choisir les modèles, je prends les beautés à l'état pur, donc pas de peau décapée, cheveux naturels aussi. Après, on peut transformer le modèle en rajoutant la chevelure, des perruques ou quoi que ce soit, mais on ne décape pas les peaux.
Mannequin noir et blanc. Hein?
Noir et blanc ou métisse, ou alors peau naturelle. Si on est brun, on est brun naturellement, pas de produit.
À propos de masques, Imana, ici, vos influences ne s'arrêtent évidemment pas à la haute couture française. Vous êtes allé fouiller aussi du côté de l'Afrique ancienne. Racontez-nous ce qui vous fascine du côté des masques, et notamment, par exemple, si on prend juste un exemple, du côté d'un masque Bamileke.
Alors, le côté des masques, le masque est très ambigu. C'est quelque chose qui est dans un coin de maison ou quelque part, qui ne parle pas et qui peut être tout vu, qui entend tout et qui ne dit jamais rien. Et qu'on néglige parfois, et qui a vécu des moments incroyables dans notre vie, c'est un témoin, parce qu'il peut participer aussi. Beaucoup de masques ont des fonctions, il faut se méfier des masques.
Mais en quoi un masque Dogon, un masque Béti, un masque Bamileke, ça peut influencer votre écriture, votre grammaire de styliste ?
Donc il y a déjà ce qui se cache derrière le masque. Il y a le côté esthétique du masque, les formes, la couleur, tout ça. Il y a quelques années, j'avais fait une collection que je m'étais inspiré par les masques Dogon, dont j'avais fait liaison avec la cité new-yorkaise. Parce que quand on regarde le masque gazelle du peuple Bambara...
Ça ressemble à quoi ?
C'est la courbe du cou, avec des pics et des triangles. Les couleurs marron un peu ocre et couleurs un peu rouillées. Et quand on regarde New York, l'architecture new-yorkaise, il y a une similitude qui est assez poignante. Ça montre que les gens voyagent, la culture est sans frontières. Est-ce que certains architectes étaient allés au pays de Gon, au Mali, voir certaines choses qu'ils ont reproduites ? Parce que la ressemblance est assez poignante.
Bref, vous avancez masqué, si j'ose dire. tellement qu'en 2006, vous avez publié votre premier livre, parce que vous écrivez aussi. Mais disons un mot d'histoire du soir, que vous avez traduit par...
Milan Mingore, ça veut dire histoire du soir en langue bété du Cameroun.
Ouais. Est-ce que, alors c'est compliqué à la radio un compte, hein, parce que normalement il faut avoir la nuit devant soi, c'est pas tellement notre cas. Est-ce que vous pourriez juste nous raconter le tout début du premier conte qui ouvre ce livre et qui s'intitule donc Le silence du masque ?
Alors le silence du masque, donc c'est cette chose ambiguë, cette chose... qui nous ressemble et qui ne nous ressemble pas, qui n'a pas de reflet, il n'y a pas de mouvement, qui est dans un coin et qui vit dans un monde qui n'a que des femmes et qui regarde toutes ces femmes s'affoler, les femmes qui étaient très intéressées par les biens. Et plus elles avaient des biens, des vénéries, plus elles en voulaient encore. Elles étaient couvertes de bijoux, minsanga, ça veut dire les bijoux, les colliers. Et elles avaient des bracelets, très jolis bracelets, très chers, mokwam. Ambeti, ça veut dire les bracelets. Bimvonga, ça veut dire les boucles d'oreilles, des choses somptueuses, des bijoux somptueux. Ça ne suffisait plus, il fallait aller recueillir les bouts de nuages pour en faire des bijoux. Donc, pour dire que dans la vie, dans la société, on a 10 francs, et en plus, on veut 25 euros. Et
ainsi de suite. Ça, vous voyez, ce petit bracelet que je ramène d'Abidjan, ça ne vaut pas grand-chose, mais effectivement, ça vaut tout l'or du monde.
Et on veut toujours plus dans la vie.
Donc, on ne dévoilera pas totalement le secret de ce masque qui observe et qui, en fait, va jouer un rôle. Il a un vrai statut, ce masque, dans cette histoire sur l'avoir que vous racontez, Imana, ici. Mais juste, c'était quoi l'idée de ce livre autour de contes ?
L'idée de ce livre, déjà, j'adore raconter des petites histoires, tout ça. Déjà, toutes mes collections, c'est thématique. Donc, il y a toujours une petite phrase amusante pour amener les gens dans un petit voyage.
Petit voyage dans une Afrique un peu rêvée.
Afrique rêvée, une Afrique que je n'ai pas connue, une Afrique là où les sorcières à grandes robes noires se baladent encore sur les balais, par exemple. Aussi, faire découvrir les sons, les mots dans ma langue natale, qui est les langues qui sont en voie de disparition. Et donc, j'ai fait quelques phrases ou des mots que je réexplique en français la signification.
L'amour du conte, c'est un peu l'amour des origines, hein?
Je pense que le conte est très fort, parce qu'avec le conte, on a la force de déplacer. Je peux déplacer la tour Eiffel, je l'amène en pleine Yaoundé, par exemple.
Vous l'avez déjà fait? C'est au programme?
Mythologie personnelle.
Un peu des Wondo pour en sol majeur, car cette langue maternelle est toujours dans votre logiciel Imane ici, mais votre cœur et Wondo se retrouvent aussi souvent dans les quartiers chics de Paris, là où il y a des cloches d'église et des musées. Vous traînez où à Paris, vous ?
J'adore Paris, le vieux Paris, le 5e, le 6e. Je ne suis pas très Champs-Élysées. Je trouve que le bon parisien, ce n'est pas les Champs-Élysées. Ouais. Les Champs-Élysées, c'est pour... Bien sûr, c'est très luxe. Hein. C'est la plus jolie avenue du monde. Mais bon, c'est pour les touristes. Le vrai parisien, ce n'est pas là-bas. C'est plutôt...
Mais qu'est-ce qu'il y a dans le 6e, dans le 5e, dans le 7e même qui vous attire?
Il y a des cafés, Café Flore. Il y a Sonia Riquel dans le coin. La sorcière de la mode.
Ici, Sonia Riquel.
Oh oui, il y a des rues, des souvenirs... Paris, c'est aussi quand on pousse les portes, il y a les cours, il y a tout un tas de trucs qu'on peut découvrir.
Vous avez un petit côté bobo, hein, un petit côté snob aussi quand même.
Ah ouais, c'est du fashion, tout ça, c'est la haute couture.
Il prend la pose. Vous prenez la pose carrément pour me répondre. Et en même temps, à côté de ce Paris quand même très chic, pas luxe, mais très chic, le Cameroun est toujours un point de chute régulier pour vous. Hein. Vous y rendez une fois ou deux par an. Racontez-nous ce que vous faites notamment avec l'association CCNC, Yaoundé.
Déjà pour dire merci Yasmine, déjà pour dire, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Moi, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, donc quoi qu'il arrive, je tiens à garder les pieds sur terre, c'est important pour moi. Quand je me rends au Cameroun, j'adore marcher à pied dans les quartiers, voir les choses que j'ai ressenties quand j'étais enfant. Donc, ce que j'ai fait avec le CCMC, c'est depuis 10 ans, la première date, que M. IVA, qui a mis cette plateforme en place pour aider les jeunes Camerounais, africains, qui s'intéressent au métier de la mode.
D'accord, donc vous êtes dans le rôle de la transmission là.
Oui, donc j'ai les formes, on veut avec d'autres formateurs qui viennent de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, ça vient de partout, c'est qu'ils veulent donner leur temps pour aider. En même temps, je m'occupe de la direction artistique en même temps.
Vous êtes un peu un pont entre Paris et Yaoundé?
Oui, pourquoi pas.
Vous n'y aviez pas pensé, mais pourquoi pas. Sinon, dans votre petite mythologie personnelle, il y a donc des mots, des masques, des tissus africains. Et puis, quelques autres variations vocales. Ça, c'est pour le fun en sol majeur.
Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors, tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes.
Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul?
Ah, d'accord. Alors, quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour. Mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça?
Oui, c'est vulgaire. C'est dégueulasse.
Enfin, maman, c'est une passade. Il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer.
Petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour.
C'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air.
Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés, tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins.
Un petit cadeau, mon petit poussin Imana, ici. Bach, donc par Glenn Gould, avec une Maria Pacom incroyable. Ça vous fait une belle robe à l'arrivée, ça?
J'adore Maria Pacom, parce que je trouve que c'est une femme dans tous ses états. Elle ose dire les choses telles qu'elles sont. Elle parle du cul comme si de rien n'était, son plaisir. C'est aussi pour dire, c'est important d'être soi-même, de dire les choses telles qu'elles sont, au lieu de faire semblant parce qu'il y a le regard des autres.
Sa tirade incroyable, elle serait reçue comment, vous pensez, à Yaoundé?
Je crois qu'il y a des gens qui vont trouver qu'elle est trop débordante. Et justement, c'est ça que j'adore chez Maria Pacom, des femmes comme elle qui l'osent.
Alors, vous savez, ce qui serait pas mal, c'est de refermer cet en sol majeur avec la reine de la féminité, Natural Woman, Aretha Franklin, que vous aimez. Vous auriez pu l'habiller aussi.
Et oui, Aretha, j'aimais bien ce personnage qui était incroyable et qui parle à tout le monde parce qu'elle est très attachante. Et cette voix, ses doigts sur le piano,
ses tenues, il aurait fallu revoir la chose hein, quand même là.
Elle était quand même... il faut du tissu, hein, il faut être riche, parce que les tissus ça coûte cher.
Donc Aretha Franklin, on l'embrasse en rappelant que vous présentez votre nouvelle collection donc Imana ici le 30 juin à Mona Bismarck American Center. Il faut faire le voyage, c'est à Paris dans le 16e. Merci Imana.
Exact, merci beaucoup.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. To my peace of mind, 'cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. À demain.